Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, pour vous accueillir dans l'émission La Pierre à Encre, votre mensuel de Radio Rancière consacré au haïku, ce petit poème qui est de la taille d'un canif et au tranchant similaire à celui d'un katana, le sabre du samouraï. Aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer un livre qui vient de paraître aux éditions Pipa, dans la forêt lointaine, on entend le haïku. Il s'agit d'une anthologie de haïku coordonnée par Isabelle Fréhubert Ypsilantis. Et bien, Isabelle a accepté de répondre à quelques questions avant que nous lisions des passages de ce livre. Merci d'abord, Isabelle, de nous accorder un peu de votre temps.
Merci à vous.
Alors, c'est un très joli livre qui est vraiment illustré de manière magnifique. Et qui finalement nous parle de la forêt dans tous ses états, on va dire.
Oui, exactement. Ouais. Parce que, en fait, quand j'ai reçu l'appel à texte, donc j'ai reçu environ 1500 haïkus. Donc certains ont été sélectionnés par un comité de lecture. Et en fait, à la lecture de ces haïkus, de grands thèmes se sont dégagés. Et des thèmes très différents les uns des autres, mais qui recouvrent la notion de forêt.
Oui. Alors, la forêt, c'est évidemment un terrain de choix pour un haijin qui recherche le silence et la méditation. Hein. C'est un espace tout à fait extraordinaire. On retrouve un contact avec la nature.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce qui ressort aussi des différents chapitres.
Ouais. Alors, comment vous avez choisi finalement les textes? Est-ce qu'il y a des critères particuliers en fait? Il y a évidemment les règles du haïku qui doivent être à peu près respectées, j'imagine.
Oui, en gros, encore, on n'a pas été quand même très exigeant à ce niveau-là. Donc, le comité de lecture était composé de 4 personnes. Et en fait, je pense que les haïkus qui retiennent notre attention, bon, bien sûr, c'était des haïkus qui traitaient du sujet, mais aussi selon les émotions qu'on ressent à leur lecture. Je pense que c'est très important à ce niveau-là.
Oui. Vous avez également évoqué les saisons, parce que les saisons sont très importantes, tant dans le haïku que dans la vie de la forêt aussi, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. La majorité des haïkus, en fait, traitaient de la saison. Ça revenait très souvent. Et c'est vrai que la forêt change d'aspect entre le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. L'aspect n'est pas du tout le même. Et donc, ça inspire les haïjin, selon... Ouais.
Alors, il y a aussi le dernier chapitre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Petit meurtre sans funérailles », où on évoque évidemment la menace qui pèse sur les forêts, hein, sur les espaces naturels et sur l'environnement en règle générale.
Oui, tout à fait. Là, j'ai choisi de terminer par ce chapitre parce que apparaissait dans les haïkus le problème de la chasse, des incendies et de la déforestation. Et bon, il est vrai que j'ai terminé par ce chapitre. Bon, certains trouveront que c'est peut-être un petit peu pessimiste de terminer comme ça, mais en fait, c'est la réalité. C'est notre réalité actuelle et donc je tenais à en parler dans cette anthologie.
Oui. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Comment vous avez découvert la pratique du haïku?
Ah, alors en fait, depuis plusieurs années, je m'intéresse au bouddhisme et aux pays d'Asie, d'Orient. Et en fait, j'ai découvert le haïku par le bouddhisme, parce que j'ai été amenée à lire un recueil de Ryokan.
Oui.
Et
sûr.
Voilà, en fait, je suis arrivée au haïku par l'intermédiaire de Ryokan. Ensuite, j'ai voyagé au Japon à 2 reprises et c'est lors du retour du Japon, lors de mon deuxième voyage, que j'ai participé aux ateliers d'initiation haïku de Madoka Mayuzumi à la Maison de la Culture du Japon à Paris.
Ouais.
Voilà comment je suis arrivée au haïku.
Ouais, et depuis lors, vous n'avez pas cessé.
Depuis lors, je n'ai pas cessé. Ouais. Et bon, ensuite, le haïku m'a même ouvert d'autres horizons au niveau de l'écriture.
Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté la pratique régulière du haïku? Est-ce qu'elle a changé votre vie? Est-ce qu'elle l'a éclairé?
Oui, tout à fait, parce que je pense qu'avec le haïku, on est amené à porter un autre regard sur le monde et puis être attentif à l'instant présent, à ce qui se passe autour de nous, même au niveau des détails, de petites choses qui paraissent bien ordinaires, mais qui prennent toute leur importance dans l'écriture du haïku.
Oui. Est-ce que la pratique du haïku a changé votre regard sur le bouddhisme aussi, ou votre pratique bouddhiste, si elle existe?
Oui, c'est on se focalise plus sur l'instant présent.
Ouais. Très bien. Isabelle Ypsilantis, merci beaucoup pour ce témoignage. On va écouter un peu de musique et puis je vais lire des extraits donc de ce livre. Dans la forêt lointaine, on entend le haïku, anthologie de haïku sur la forêt, publié aux éditions Pipa. Et puis vous retrouverez tout à l'heure, bien évidemment, la chronique mensuelle de notre ami Jean Antonini. Merci beaucoup, Isabelle Ypsilantis.
Merci à vous.
Voilà, après ce morceau de Chieko Mori, voici quelques extraits de cette anthologie de haïku publiée aux éditions Pipa, coordonnée par Isabelle Ypsilantis, sous le titre « Dans la forêt lointaine, on entend le haïku ». Forêt animée, le dessin des feuilles sur mon chemisier. Forêt animée, le dessin des feuilles sur mon chemisier. De Dominique Durvy. Daniel Dutheil. Le bois presque chauve, une feuille accorde au vent sa dernière danse. Le bois presque chauve, une feuille accorde au vent sa dernière danse. Sandrine Varonsky. Maison de retraite. À peine arrivé, il cherche la forêt. Maison de retraite. À peine arrivé, il cherche la forêt. Louise Nouvion. À la queue leu-leu, trottinant dans le Layon, six marcassins. À la queue leu-leu, trottinant dans le Layon, six marcassins. Geneviève Ray. Randonnée dans les bois,
Un putois est passé avant nous. Randonnée dans les bois. Un putois est passé avant nous. Annie Chassing. Loin sur le sentier, le bond d'une biche déjà disparu. Loin sur le sentier, le bond d'une biche déjà disparu. Un vide au pied de l'arbre, là où la biche a dormi. Un vide au pied de l'arbre, là où la biche a dormi. Ça, c'était un haïku de Caroline Coppé. De Éléonore Nicolai. Sieste sur la mousse, les pattes en l'air du bousier. Sieste sur la mousse, les pattes en l'air du bousier. De Geneviève Ray. Sieste sous les arbres, une araignée descend le long d'une feuille. Sieste sous les arbres, une araignée descend le long d'une feuille. De Marc Bonnetto, cri d'une chouette, la forêt se perd dans la nuit. Cri d'une chouette, la forêt se perd dans la nuit. Danny Chessing, ah, ce rose, au cœur vert de la forêt, une digitale. Ah, ce rose, au cœur vert de la forêt, une digitale. Vincent O'Haraud, balade en forêt, un petit piaf dans le nid de mes cheveux. Balade en forêt, un petit piaf dans le nid de mes cheveux. Caroline Coppé, chant de la fauvette en forêt, j'apprends à me taire. Chant de la fauvette en forêt, j'apprends à me taire. Philippe Massé, forêt profonde, le cousin psy intarissable. Forêt profonde, le cousin psy intarissable. D'Isabelle Ypsilantis, sortie au bois, guettant le chant d'oiseau de son portable. Sortie au bois, guettant le chant d'oiseau de son portable. Voici quelques haïkus des forêts d'ailleurs. Le premier est de Mariama Kali. Belle Amazonie, de ses couleurs tropicales, un toucan est né. Belle Amazonie, de ses couleurs tropicales, un toucan est né. De Lise Noël. Lisière de forêt. Cacophonie verte et jaune, les perruches. Lisière de forêt, cacophonie verte et jaune, les perruches. De Raymond Guillao, temple abandonné, la forêt reprend les chants des moines disparus. Temple abandonné, la forêt reprend les chants des moines disparus. De Bernard Cadoré. Forêt aveuglante, les gongs du temple guident mes pas. Forêt aveuglante, les gongs du temple guident mes pas. D'Hélène Duc. Chanson monotone. Les cèdres de Yakushima traversés par la lune. Chanson monotone. Les cèdres de Yakushima traversée par la lune. De Alice Schneider. Cabane au fond du bois, Robinson d'un jour. Cabane au fond du bois, Robinson d'un jour. Gérard Dumont. Vent d'automne, doucement la forêt berce ses nids abandonnés. Vent d'automne, doucement la forêt berce ses nids abandonnés. De Christine Caillou. La joue sur l'écorce, par deux petits bras, un arbre enlacé. Joue sur l'écorce, par deux petits bras, un arbre enlacé. De Dominique Chipot. Sortant du sous-bois, ébloui par la grisaille. Sortant du sous-bois, ébloui par la grisaille. Bicot. Première neige. La renarde retrace sa piste de l'an passé. Première neige, la renarde retrace sa piste de l'an passé. De Monique Ginchat. Matin frisquet. À la lisière du bois, des piles de grume. Matin frisquet. À la lisière du bois, des piles de grume. Philippe Massé. Forêt en automne, le bruit de la pluie sur des bâches bleues. Forêt en automne, le bruit de la pluie sur des bâches bleues. De Lise Robert. Penché, l'arbre déraciné en fleurs. Penché, l'arbre déraciné en fleurs. Arbre bourgeonnant, puis le trille du merle, déjà derrière nous. Arbre bourgeonnant, puis le trille du merle, déjà derrière nous. Ce haïku était de Nicolas Lemarin. De Geneviève Ray. Il sent bon les champignons, ce petit sentier, ombre de ma mère. Il sent bon les champignons, ce petit sentier, ombre de ma mère. Coq de bruyère, souvenir empaillé de mon père. Coq de bruyère, souvenir empaillé de mon père. C'était un haïku de Éléonore Nicolai. D'Hélène Duc. Parti pour des cèpes, la forêt ne m'offre que ma solitude. Parti pour des cèpes, la forêt ne m'offre que ma solitude. Et ce dernier. De Jacques Cache. Bois de Vincennes. Entre les troncs gris, une tente bleue. Bois de Vincennes. Entre les troncs gris, une tente bleue. Et enfin, j'allais oublier celui-ci, extrait du chapitre Petit meurtre sans funérailles, qui évoque les souffrances que parfois l'on fait subir aux forêts. Ce haïku est de Salvatore Tempo. 2000 ans d'histoire et puis une cigarette mal éteinte. 2000 ans d'histoire et puis une cigarette mal éteinte. Voilà, c'est extrait donc de cette anthologie de haïku. Je ne pouvais pas tout lire, il y en a plein, vraiment plein de très beaux haïkus dans cette anthologie, donc coordonnée par Isabelle Ypsilantis. Dans la forêt lointaine, on entend le haïku, publié aux éditions Pipa. Vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Christophe Jubien dans l'émission La pierre à encre mensuelle de Radio Rantiel consacrée au haïku, ce petit poème d'origine japonaise de la taille d'un canif mais tranchant comme un katana, un sabre de samouraï. Nous avons rendez-vous de suite avec notre ami Jean Antonini, haïjin depuis très longtemps et directeur de publication de la revue Gong, qui est l'organe de l'association francophone de haïku, Jean Antonini, qui nous parle depuis le début de l'année du haïku de langue anglaise.
Impossible d'évoquer le haïku en anglais sans aborder le lien entre haïku et zen, conçu par le traducteur R.H. Bliss. Ce lien a coloré le haïku américain. Certes, les poètes de haïku japonais ont protesté que ce lien zen-haïku n'existait pas, du moins dans l'histoire du haïku japonais. Il a cependant eu de l'importance en Amérique, particulièrement dans les années 70-80, où le bouddhisme et le zen intéressaient beaucoup les intellectuels américains. Relire Daisetsu Suzuki ou Alan Watts. Le poète canadien Eric W. Hamann, 1934-2016, né à Munich, émigré au Canada avec ses parents en 1952, fait des études de médecine. Il crée la revue Haiku en 1967. En 1977, avec Betty Drevniok et George Swede, il fonde la Haiku Society of Canada, qui deviendra en 1985 Haiku Canada. En ce qui concerne le zen et le haïku, Eric Hamann publie en 1969 un mince recueil, The Wordless Poem, le poème sans mots, traduit en français par Daniel Pi en 2006. Dans le premier chapitre, La voix du haïku, l'auteur indique « Un haïku est plus qu'une forme de poésie. » Et encore, chaque haïku est comme la réponse d'un maître zen à la question d'un débutant sur le sens de la vie. Dans le deuxième chapitre, « Sans mots », vient en exergue le poème du japonais Ryota. Pas un mot échangé entre l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. Et en conclusion, on dit qu'un haïku comparé à un autre poème est sans mots. Des exemples de Nicolas A. Virgilio, Anita Virgil et Rod Wilmot sont donnés. Lys, hors de l'eau, hors de lui-même, émergeant chaudes et roses de leur peau, les betteraves, écoutant, après quelques instants, je reprends ma hache. Le poème grandit et émerge tel le lys, tel les betteraves, spontanément, sans effort, sans aucun artifice, écrit Hamann. Dans le chapitre 3, L'incité, l'auteur passe en revue les figures qui doivent être bannies du haïku. La comparaison, la métaphore, la personnification, le symbolisme. Elle crée des effets poétiques alors que le haïku présente les choses telles qu'elles sont. Première lueur grise de l'aube, des paniers vides retournés sur les étals du marché. Johan Borgensen. Plénitude de la lune. Dans le puits gelé, quelqu'un a lancé une pièce. Nancy McDowell. Au chapitre 4, rien de spécial. Le haïku n'est ni un objet de beauté, ni une joie éternelle. Ce n'est ni un mets délicat, ni un festin, mais un poème qui a le goût de nos repas quotidiens. Il traite du wuxi, ce qui signifie rien de spécial. Même ici, un petit peu de soleil et quelques chaussettes qui sèchent. Ichirinso. Jusqu'à la fin de la fin de la vie, je voyage, je coupe les ongles de mes orteils. Santoka. Dans le chapitre « Sans égo », ce poème de Anita Virgile. Après-midi tranquille, les ombres de l'eau sur l'écorce du pin semblent étrangement impersonnelles aux lecteurs occidentaux, dit Aman. Pas de trace du soi temporel de l'auteur, de son ego personnel. Terminons cette lecture qui confond abusivement les mots et les choses par ces deux poèmes de Robert Spitz et William G. Higginson. Le dernier couchant de l'année. Le regarder, pensant juste le dernier couchant de l'année. Première chose entendue, le camion de déneigement. Une année de blanc. À la prochaine fois.
Vous retrouverez Jean Antonini, directeur de publication de la revue Gong, dans 4 semaines. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette revue, organe de l'Association francophone de haïku. Il vous suffit tout simplement de taper « Association francophone de haïku » sur votre moteur de recherche et vous trouverez tous les renseignements souhaitables sur l'abonnement à la revue Gong. La pierre à encre, c'est terminé. On se retrouve dans 4 semaines. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.